Vous êtes sur la zone payante à Cube Radio. Je suis en compagnie de Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Montréal et Journal de Québec. Et c'est le moment de s'attaquer aux histoires de la semaine et à l'actu qui fait un peu là, vibrer les gens de la NFL qui sont assez... qui ont tout le monde hâte là, que le premier ballon soit en l'air et qu'on déclare enfin la saison ouverte. Mais là, Steph, c'est la semaine là où on connaît, pour ceux qui ont des équipes favorites, là, avec Denis, il n'y a peut-être pas ce problème-là, mais qui sont les 53 joueurs qui feront partie de l'équipe? Et là, il y a des surprises, il y en a qui sont coupés, que c'est une surprise, mais est-ce qu'il y a dans les coupures qui ont été faites dans les derniers jours, des joueurs qui, pour toi, représentent des surprises?
Ben, il y a rien qui est forcément majeur. Moi, je dirais que le plus gros move qu'il y a eu cette semaine, c'est l'échange qui a amené le maraudeur Chauncey Gardner-Johnson aux Eagles. On se rappelle qu'il jouait avec les Saints. Puis c'est un fit tellement parfait avec les Eagles. Premièrement, évidemment, parce qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Ils n'ont pas payé cher pour l'avoir. Là, on parle de cinquième et sixième choix. Et puis, Chauncey Gardner-Johnson, c'est un baveux, c'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui a énormément d'attitude sur le terrain. Imagine comment les gens de Philly, Jean-Nic, vont triper sur lui. Là. Ça correspond parfaitement à leur profil. Donc, ça, c'est un gros move des Eagles avant la saison. Ceux qui se demandent pourquoi les Saints l'ont laissé aller pour des peanuts, c'est tout simplement que les négociations de contrat, parce qu'il est à sa dernière année de contrat, le bon Chauncey, ça a pris le bord un peu. Là. C'était un peu n'importe quoi. Ils n'arrivaient pas à s'entendre, les deux parties. Donc, les Saints ont dit « bye, on t'échange ».
Qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour?
Ben c'est ça, c'est un cinquième choix puis un sixième choix. C'est vraiment pas grand-chose. Là. C'est comme, il se serait accroché à lui, il l'aurait perdu à la fin de l'année sur le marché des agents libres, puis il aurait probablement eu un choix compensatoire de troisième ronde au repêchage. Donc, ça devait vraiment là, être au niveau relationnel que ça a chopé entre les deux parties, là, parce que probablement qu'on a conclu qu'on pouvait pas continuer. Mais sinon, moi, j'ai le goût de te parler d'un cas très particulier avec les Raiders, Alex Leatherwood, un joueur de ligne offensive. Pourquoi je te parle de lui? Ils viennent de le libérer et attache-toi, qui a été le 17e choix au total du repêchage des Raiders, pas en 2018, pas en 2019, l'an passé.
Incroyable.
Ça, c'est un gâchis total, puis c'est pas la première fois. Ça nous montre à quel point les trois années du régime Mike Mayock, John Gruden, point de vue repêchage, là, ça n'a pas été chic, mais pas du tout. Les trois choix de première ronde des Raiders en 2020 et 2021 ont été coupés. Donc, Leatherwood, c'est le troisième à qui ça arrive. Quand tu regardes un peu plus loin, les Raiders, il y avait trois choix de première ronde en 2019. On parle de Clelin Ferrell, Josh Jacobs et Jonathan Abram. C'est pas des grands joueurs de football. Là. T'sais, Josh Jacobs contribue là, quand même à la cause des Raiders, mais c'est pas non plus des studs comme on se serait attendu en première ronde. Puis ça continue les années d'avant. Là. En 2019 aussi, il y avait d'autres choix de deuxième ronde qui ont été échangés, des choix de troisième ronde qui sont plus là. Bref.
Il y a peut-être juste Henry Ruggs qui joue en prison.
Ouais, peut-être avec comment ça s'appelait le film là, avec Burt Reynolds à l'époque. Je me souviens plus, mais il y avait une équipe de football en prison. Là. Ce serait possiblement le cas. Sinon, écoute, juste mentionner que l'excellent Josh Rosen, corps arrière, qui avait été choisi, rappelle-toi, dixième au total en 2018.
Pour reprendre ses mots, il y avait neuf équipes qui avaient fait une erreur.
Ouais, effectivement. Puis écoute, là, il en est à sa sixième équipe. Il a été libéré par les Browns. Donc, ça commence à faire beaucoup d'équipes qui concluent à la même chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa place dans la NFL. C'est une semaine difficile là, pour les joueurs qui sont coupés plus près de chez nous. Écoute, Anthony Auclair qui a été libéré par les Texans au moment où on enregistre, mais il y a une possibilité quand même. Tu sais, des fois, il y a des moves administratifs. On libère un joueur, ensuite on en place quelques autres sur la liste des blessés. On ramène un des joueurs qui a été libéré. Dans le cas d'Auclair, les Texans sont intéressés à avoir ses services. La preuve, c'est qu'il lui avait consenti 1,6 million, là, un contrat entièrement garanti, pas plus tard qu'en mars. Donc, c'est fort possible là, qu'il réintègre les rangs là, d'une quelconque façon. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est une semaine difficile. Là. Il y a au-dessus de 860 joueurs qui sont coupés à travers les 32 équipes dans la NFL. Ça fait mal au cœur à bien des joueurs, bien des familles, bien des coachs. mais c'est la triste réalité de la business de la NFL.
Et Aaron Wilson, là, qui couvre la NFL, parle d'une blessure encore là, qui est en train de se remettre.
Il s'était blessé au genou au début du camp. Il est pratiquement remis de ce que j'en sais. Là. Il est à peu près sur le point de revenir au jeu. Donc, c'est peut-être juste d'attendre qu'il guérisse à 100% pour le ramener. Il y a des petites technicalités comme ça, des fois. Là. Je pense que sa carrière n'est pas finie dans la NFL.
Bon, ben on va lui souhaiter bonne chance, Anthony, parce qu'on a adoré le suivre dans les dernières années, puis il nous a quand même fait vibrer, puis il y a une bague du Super Bowl.
Effectivement.
Peu de Québécois peuvent se vanter d'avoir. Maintenant, il y en a qui ont été coupés, mais il y en a qui ont forcé la main à leur coach et à leur organisation pour qu'ils restent dans l'équipe de 53 joueurs. Et d'après toi, qui a comme fait des surprises, ou en tout cas, ont fait « wow », quand les partisans de leur équipe ont fait « wow » en les voyant agir pendant le camp d'entraînement?
Ben, écoute, pour moi, le camp d'entraînement, puis les matchs pré-saison surtout, on voit tellement peu les joueurs réguliers de nos jours. Là. C'est plus comme à une époque où tu avais 4 matchs pré-saison, puis au troisième match, on les voyait jouer une demi, puis même plus des fois. Donc, pour moi, la vraie raison là, d'être de la pré-saison, c'est de voir jouer des recrues, puis quelles recrues performent le mieux. Fait que, j'ai le goût de te faire un portrait rapide de quelques recrues qui sont sorties du lot. Puis le premier cas, puisque tu parlais de surprise, moi, j'ai envie de te parler de Damon Pierce, le porteur de ballon des Texans auquel Denis faisait allusion pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Lui, il a vraiment fait bonne impression. Écoute, c'est un choix de 4e ronde, si je me trompe pas. Donc, on s'attendait pas forcément à un impact immédiat de son côté. Mais les Texans l'ont apprécié au point où ils lui confient le rôle de partant, là, d'office en début de saison. Ils ont même cru pertinent de libérer Marlon Mack, un agent libre là, qui avait signé plus tôt cet hiver. Donc, il va avoir une place importante dans cette équipe-là s'il reste en santé. Puis c'est intéressant parce que les Texans d'Houston, c'est une équipe jeune qui se reconstruit, donc ils n'hésiteront pas à lui donner le ballon en masse. Là, il n'est pas question là-bas de dire « Ah, c'est un jeune, on va l'épargner ». Donc, prenez-en note pour vos fantaisies, pour votre intérêt personnel aussi. Là. Damien Pierce qui a gagné une place. Je reste rapidement avec les porteurs de ballon. On sait qu'Andy Reid a le don de trouver des joueurs à gauche, à droite, qui sortent d'un peu nulle part des fois, puis qui exploitent leur rapidité, leur explosivité. C'est un peu ça l'attaque des Chiefs. Ils ont trouvé un joueur, Isaiah Pacheco, un porteur de ballon, comme je le disais. Ils l'ont choisi en 7e ronde. Donc, faut peut-être pas s'attendre à des miracles, mais il a suffisamment bien joué. Il a été très explosif au camp d'entraînement, dans les matchs préparatoires, pour mériter sa place dans la rotation. On sait que là-bas, c'est Clyde Edwards-Helaire qui devrait être encore le partant, mais possiblement que la laisse va être courte. Là. Il n'a pas démontré des choses si convaincantes que ça jusqu'à maintenant dans sa carrière.
Il a l'air bodé avec Patrick Mahomes, par exemple.
Oui, ça aide. Là. Mais je veux dire, d'un choix de première ronde qui avait beaucoup, beaucoup produit sur la scène universitaire américaine avec LSU, c'est jusqu'ici assez décevant. Donc, Pacheco, je dis pas qu'il lui vole son job pour l'instant.
Il peut avoir une amitié changeante, là, mettons.
C'est ça. Là, il va être un cas à surveiller là, parmi les porteurs de ballon. Puis je t'amène une autre surprise. Au camp d'entraînement des Packers, t'sais, on a fait beaucoup de cas, là, Jean-Nic, avec le fait que Davante Adams était parti, puis que le receveur numéro un des Packers, ça allait être Allen Lazard, puis que ça avait aucun bon sens. Les Packers qui n'ont pas repêché de receveur en première ronde, en deuxième ronde, ils ont choisi Christian Watson, pis c'est de lui dont tout le monde parlait. Sauf que, au camp d'entraînement, c'est un autre receveur, Romeo Doubs, en 4e ronde, qui s'est vraiment illustré, au point où les gens qui suivent l'équipe avec sur une base quotidienne disent qu'il va être non seulement partant dès le jour 1, mais que ce serait pas surprenant qu'il ait un impact majeur. Là. Donc, Romeo Doubs, qui a vraiment fait sa place au niveau des receveurs. Là.
Parce que Aaron Rodgers n'a pas perdu de temps pour se plaindre, là, à mon souvenir, là, dans le camp de pré-saison, en disant que les receveurs n'étaient pas à la hauteur.
Oui, mais encore là, bon, c'est de bonne guerre là, qu'un vétéran de sa trempe fouette les jeunes, mais en même temps, je pense pas que Doubs était le plus visé. Moi, je pense qu'au contraire, on allait plus essayer de fouetter Christian Watson, qui va devoir c'est continuer de s'illustrer parce que c'est pas parce que tu es choisi en deuxième ronde que tu vas avoir préséance sur l'autre qui a été choisi en quatrième ronde. Ça marche pas de même dans la NFL. Donc ça va être une situation bien intéressante à suivre. T'sais. Puis imagine si les deux s'illustrent dès la première année, ben il y a bien des problèmes potentiels des Packers qui seraient écartés. Donc ça va être à suivre. Côté corps arrière, rapidement, ça a été Kenny Pickett qui a été le plus productif. Je te dirais que avec les Steelers, choix de première ronde, c'est Mitchell Trubisky qui va partir l'année selon toute vraisemblance. Mais imagine, là, Mitchell Trubisky n'a pas une gaffe près. Ça va crier fort à Pittsburgh s'il commence à cafouiller avec le ballon puis qu'il y a 3-4 revirements en début de saison. Là.
Ils vont déjà demander le carrière aux petites mains.
Ah oui, c'est vrai, il y avait une histoire sur ses mains, lui,
ben oui,
au combine. Tu me rappelles ça? Ben oui, ça a été toute une histoire. Puis finalement, il est en train de démontrer qu'il, en tout cas, en match pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Parce que comme je le disais tantôt, tu joues pas nécessairement contre les partants des autres équipes. Mais il a été très en contrôle, 29 passes complétées en 36, 3 touchés, aucune interception. On parle d'un pourcentage de 80% là, d'efficacité. Ça, c'est à surveiller. Puis, je suis convaincu, Jean-Nic, que tu vas me parler de Skylar Thompson.
Bien sûr.
Je sais. Fait que je te laisse m'en parler un peu, mais écoute, faut prendre notre gaz égal dans son cas. Mais je te laisse t'enthousiasmer un peu.
Non, évidemment, le corps arrière de... Lui, il jouait au Kansas. Hein? C'était le corps arrière à Kansas University ou Kansas State. Le carrière que les Dolphins ont pris en 7e ronde. Et là, comme tu dis, là, il y a eu un peu d'emballement parce que le premier match, il l'a joué au complet parce que Teddy Bridgewater était blessé puis qu'ils n'ont pas sorti Tua. Et il a joué en fin de match et il s'est bâti des statistiques très impressionnantes, mais ça reste des statistiques de match pré-saison. Là.
Ben, il a fait quand même bien, il faut le noter, puis c'est intéressant là, parce que tu sais pas ce qui peut arriver dans le futur. Les Dolphins, on va voir cette année avec Tua, tu sais, on peut pas être sûr. Il a gagné sa place, c'est intéressant, on le mentionne là, parce
que... C'est ce qu'il y a de pire là, en fait, là, c'est qu'il a enlevé la place de quelqu'un, là, parce que normalement, il se serait fait couper, puis on l'aurait repris un peu sur le practice squad, puis il aurait aidé les jours de match avec une oreillette. Mais là, on a été obligé de le garder dans le 53. Puis là, ben, on a été obligé de couper un wide receiver. Là. T'sais, c'est ça aussi. Là. C'est que là, on a gardé 5 receveurs de passe au lieu de 6. Puis on a 3 corps arrière.
Mais tu sais, moi, ce que je dirais, c'est on garde un œil dessus. On s'excite pas trop. Tu donnes une vraie chance à toi. Puis faut pas oublier une chose. Tu as Teddy Bridgewater comme réserviste. Moi, j'ai toujours dit que Teddy Bridgewater, il est assis entre deux chaises. Il sera jamais un partant de qualité. Mais c'est un réserviste de grande qualité, par exemple. Là, c'est dur de déloger un gars comme Bridgewater. Donc, attention, mais tu sais, je voulais quand même là, qu'on s'amuse avec ça parce que c'est intéressant de le noter.
Mais, l'an dernier, il y a eu la même chose avec Reed Sinnett, qui est aussi un corps arrière, qui était supposément très bon parce qu'il a performé pendant la pré-saison.
C'est ça, là.
On l'a laissé aller en pensant aller le chercher sur le practice squad. Les Eagles sont venus le chercher. Lui, ils ont été pognés avec toute l'année, puis là, ils viennent de le couper aussi.
Fait que, tu sais, c'est ça. Faut pas s'emballer. C'est des matchs préparatoires. Mais je trouve que c'est intéressant de parler des recrues parce que, écoute, pourquoi écouter ces matchs-là maintenant? Là, c'est, moi, je trouve que c'est la raison numéro un pour s'intéresser aux matchs pré-saison, personnellement. Là. Puis je l'ai toujours pensé, mais encore plus dans les dernières années, maintenant qu'on épargne beaucoup plus les partants. Donc, un petit round-up en bon français, des fois, c'est juste correct.
Merci Steph. Et là, je veux que tu me parles aussi de l'espèce de sujet là, dont tout le monde parle à la veille du début de la saison. C'est quand NFL Network publie le classement des 100 meilleurs joueurs votés par les joueurs de la NFL, mais les 100 meilleurs joueurs de la Ligue de la Ligue nationale de football. Et là, on le donne en 1000. La première position, c'est Tom Brady. T'sais, je le sais là, que c'est un grand corps arrière. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que c'est le meilleur de tous les temps, mais là, est-ce que c'est le meilleur joueur en 2022 de la NFL?
En fait, les joueurs réagissent sur la saison passée. Puis quand tu regardes ça, ben c'est un débat. Il y avait un débat l'an passé. Là. Tom Brady a quand même terminé premier pour les verges, 5316 verges, premier pour les passes de toucher avec 43. Donc, il y avait un mérite. Il méritait d'être considéré. Tu peux dire, par contre, qu'un Aaron Rodgers qui a gagné le titre de MVP a connu une saison peut-être supérieure aux yeux de certains parce qu'il y avait moins d'armes à sa disposition. Il y avait une ligne offensive qui était très maganée devant lui. Tu sais, il y a d'autres joueurs aussi. Je trouve ça dommage qu'on considère jamais Aaron Donald, à juste titre, comme le meilleur joueur de la NFL. Peut-être qu'il a moins d'impact qu'un corps arrière, ça, je peux le comprendre. Mais écoute, quand tu regardes comment il a performé en série éliminatoire, au Super Bowl en particulier, c'est lui qui a fait dérailler la dernière série des Bengals à lui tout seul, là. Il mériterait considération. Puis des listes comme ça, ça se prête toujours à débat, là.
Évidemment.
Tu sais, il y a du bon, il y a du moins bon. Puis ça a de la valeur, là, parce que, écoute, c'est les joueurs qui votent en grande partie.
Mais oui, c'est ça l'intérêt de cette liste-là. Moi, c'est pour ça que je la regarde quand même avec intérêt. Je me dis, c'est pas des journalistes, c'est pas le public, c'est pas des fans. Fait que, tu sais, tu te dis...
Ça a une autre saveur, là.
Exact.
Mais il y a des choix là-dedans. Tu sais, c'est pas parce que c'est les joueurs qu'on doit regarder ça béatement puis se dire que tout est merveilleux. Tu sais, je regarde le porteur de ballon des Colts, Jonathan Taylor, très bon, mais il est classé 5e. Ça me paraît très élevé. Puis après ça, tu vois que Josh Allen. Ben c'est ça. Puis Josh Allen, ça fait quand même 2 saisons qu'il s'illustre. Carrière des Bills, qui est comme 13e dans la liste, là, honnêtement, moi, je comprends pas. Ça me paraît très bas. Donc, tous les choix sont discutables, mais c'est pas une question de c'est qui l'a fait, c'est-tu les joueurs ou les journalistes. Je ferai une liste demain, puis il y aurait certainement des choix discutables là-dedans. Puis n'importe quel journaliste, ça serait pareil. Tu sais, c'est la beauté de ces listes-là. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y en a pour certains goûts, il y en a pour d'autres. Mais pour revenir à ta question de base, je pense que Tom Brady, c'est loin d'être un scandale si en 2021, les joueurs l'ont considéré comme le meilleur joueur de la Ligue. Il y avait les stats et le rendement là, pour padder cette affirmation-là, mais il y en aurait eu d'autres là, qui auraient pu être largement considérés aussi.
On est en 2022, là, il va falloir se tourner vers l'avenir. Et après la pause, Stéphane, tu vas nous faire un peu le tour d'horizon des divisions, des 8 divisions de la NFL pour voir qui sort gagnant peut-être de l'entre-saison et qui sort perdant et comment se dessine la saison qui s'en vient. Bougez pas.